ラフトレ
Bonjour et bienvenue dans Jaftamer numéro 34 avec Stéphane sur RLP depuis le Périgord. Aujourd'hui une émission spéciale placement. Saviez-vous qu'il y avait plus d'enfants placés en France que de détenus? Saviez-vous également qu'il était quasiment impossible d'avoir accès aux informations concernant ces placements et que de nombreuses personnes se plaignent que le budget des services sociaux concernés est absolument hallucinant et que nous avons un très gros problème d'opacité et d'accès à la vérité. Aujourd'hui, pour en parler avec nous, nous aurons Maître Hamas pour une interview exclusive qui sera diffusée en deux parties, mais au préalable, le témoignage de la semaine, les placements, quand ça part en vrille et qu'on perd ses enfants, ben voilà, ça fait ça.
Voici maintenant le témoignage de la semaine.
Mes filles Mira et Maya ont été enlevées de mon domicile le 14 mars 2012 à Montreuil par mon ex, leur mère et les services sociaux. Elles ont été placées dans une famille d'accueil. Mon ex m'a calomniée, etc. Malgré qu'elle a vécu 10 ans de moi, le livre L'injustice impensable en France commence par notre rencontre dans une soirée des célibataires pour Nouvel An 2002.
D'accord, vous avez vécu ensemble, vous avez eu deux enfants qui...
Oui, Mira devrait avoir bientôt 14 ans et Maya, elle a eu 10 ans.
Est-ce que vous avez eu des procédures? Votre dame est partie avec vos enfants, mais est-ce que vous êtes passé au tribunal des enfants ou...
Oui, mais moi je faisais d'appel. Encore en mars 2013, je fais un appel, mais la justice ne voulait rien entendre. Je comprends pas pourquoi mes filles qui sont nées à Paris, à l'hôpital Robert Debré, à l'hôpital intercommunal de Montreuil, sont placées à 300 km d'ici sans aucune raison, dans un coin paumé en Loire-et-Cher.
Est-ce que vous avez le motif du placement?
Ma foi, c'est la dangerosité du père, bien entendu. Déjà au départ, c'était je suis violent, je suis incontrôlable, ma foi, des mensonges pareils.
Est-ce que vous avez été condamné?
Non, jamais condamné.
Vous n'avez jamais été condamné, mais les enfants ont été placés et vous n'avez pas eu le droit de les revoir depuis 8 ans.
C'est ça, 8 ans, plus que 8 ans, 8, bientôt ça sera 9 ans, le 14 mars prochain.
D'accord,
très bien. On y est à presque 3 mois.
Enfin, très bien, oui. Donc votre ouvrage, La justice impensable en France, 10,50€ sur Amazon, par Alain Bozaric. On va préciser en disant que vous êtes un ex-candidat législatif à Montreuil et à Saint-Denis Écologie Les Verts. Donc vous êtes quelqu'un qui a une certaine crédibilité, on va dire, qui essaie de représenter les autres. Et vous ne comprenez pas pourquoi le système n'a pas su vous protéger et vous permettre de continuer à avoir vos enfants.
Vous savez, l'injustice, regarde juste pour avoir la main de mise. L'injustice ne cherche pas la réalité qui est la seule vérité. Et j'en suis la malheureuse preuve.
Bon, très bien. Bah écoutez, merci Monsieur Bozaric, merci à vous et beaucoup de courage, merci beaucoup.
Merci.
RLP,
Radio Libre en Périgord.
RLP 102.3, aujourd'hui avec Maître Michel Hamas de Marseille. Maître Hamas s'est rendu célèbre dans le milieu de la protection de l'enfance à la fois par de nombreux appels pour essayer tenter d'améliorer la justice de l'enfance, ainsi que par une proposition de loi qui justement est dans le but d'améliorer le système des placements qui sont parfois un petit peu abusifs. Maître, êtes-vous avec nous aujourd'hui?
Oui, bonjour.
Bonjour. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter, définir votre carrière, votre parcours, et nous dire ce que vous faites et pourquoi, s'il vous plaît, en quelques minutes?
Oui, bonjour, je suis Michel Hamas, je suis avocat au barreau de Marseille. J'ai été pendant 25 ans avocat plutôt en droit des affaires, en droit pénal. Et je suis dans ce contentieux depuis maintenant un an et demi, puisque j'ai eu un premier dossier qui m'en a amené un autre, et puis je trouvais une faille. Et tout compte fait, c'est une procédure qui n'était pas balisée pour les parents. Je me suis rendu compte qu'il y avait des avocats des enfants, mais qu'il n'y avait pas d'avocats de parents. Et du coup, je me suis mis à fond là-dedans, à défendre les parents contre un système qui est extrêmement violent, qui n'a, je pense, pas d'équivalent... en France, c'est le système le plus violent.
Vous parlez, bien entendu, de la justice des enfants et des placements.
Ah ben, la justice des enfants, c'est ça, qui est incompréhensible dans notre droit positif, c'est que notre droit, en général, a une présomption d'innocence. C'est-à-dire, quand on dit quelque chose sur quelqu'un, il y a une présomption d'innocence. Et c'est le contraire, dans cette matière, dans le droit de l'enfance, il y a une présomption de culpabilité des parents. C'est tout simple. On estime que les parents sont coupables du fait, de ce fait-là, ils n'ont pas de droit. Alors, au début, je le disais sans avoir de recul trop, parce que j'avais 20, 30, 40 dossiers. Au niveau de dossier où nous sommes maintenant, on peut affirmer que les parents n'ont aucun droit. Je vous donne juste un exemple. Une dame qui est à Évry, elle a deux enfants placés, elle a des droits de visite qui sont de loin en loin tous les 15 jours. J'écris depuis maintenant un an sans que le magistrat d'Évry ne m'ait jamais répondu. J'ai demandé des droits, des ouvertures de droits pour les vacances, pour l'anniversaire, jamais répondu. Et le magistrat m'a collé une audience le 31 décembre à 9h à Évry. C'est-à-dire, c'est au-delà du mépris. Ce qui se passe dans cette matière est au-delà du mépris. C'est une matière où règne une violence institutionnelle, puisque dans la mesure où il n'est pas prévu que les magistrats répondent aux demandes des parties, écoutez, s'ils répondent pas, ben ils répondent pas. J'ai une petite maman qui est à Créteil, qui a deux enfants autistes. Comme elle habite Auch, de manière tout à fait simple, on a placé les enfants à Créteil, ce qui est tout à fait logique. Et je demande depuis maintenant 2 ans à avoir des droits. J'ai obtenu des droits, c'est-à-dire qu'elle a le droit de voir ses enfants 2 fois par mois également. Et ça n'a jamais été mis en œuvre depuis maintenant 2 ans par les services sociaux, ce qui est quand même incroyable. C'est que au-delà du fait que les juges ne répondent pas, les services sont autonomes, totalement. C'est-à-dire ils décident de ne pas mettre en œuvre la mesure. Ils la mettent pas en œuvre et on peut rien contre ça. Il n'y a pas de levier.
Alors, afin de poser un cadre, combien y a-t-il d'enfants placés en France actuellement, à peu près à la louche?
Selon les chiffres qu'on a, mais il n'y a pas de chiffres précis, c'est très flou, hein. Il y aurait 172 000 enfants placés en France et il y a 70 000 détenus. Et on ne parle que des détenus, du bien-être. Le bien-être, on ne parle que du bien-être des détenus, on ne parle que de la, que de tout ce qui tourne autour des détenus, de réouvrir des prisons, tout ça, ce qui est logique. Hein. Par contre, il n'y a jamais un mot sur les enfants placés dans quelque domaine que ce soit. Dire jamais vous avez vu d'émission sur les enfants placés, sauf à vous montrer un petit juge bien propre dans un tribunal qui fonctionne, qui va être plein d'empathie dans des audiences trop mignonnes où on va souffrir avec l'enfant. Alors, des enfants qui souffrent de parents violents, il y en a énormément. Des enfants qui souffrent de parents violents, il y en a énormément. Mais il y en a 100 fois moins que d'enfants qui souffrent pas du tout. Il y en a 100 fois moins que d'enfants qui ne souffrent pas du tout et qui sont simplement enfants de parents qui se séparent, enfants de parents qui divorcent, enfants autistes. Il y en a 100 fois moins.
Alors c'est effectivement un nombre très important. Nous avons parlé avec M. Gérald Néran, qui est un sociologue, qui nous disait par contre qu'il était trop tôt pour voir s'il y avait une corrélation entre l'augmentation du nombre de conflits familiaux et l'augmentation du nombre d'enfants placés. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que le nombre d'enfants placés est en expansion et qu'il est lié au nombre de parents qui n'arrivent pas à s'entendre?
Non, ça, moi en tout cas depuis que j'y suis... Moi, j'y suis que depuis un an et demi, donc je suis pas cette matière de manière particulière. Moi, ça fait un an et demi que je suis dans cette matière. Donc je ne peux pas savoir ce qui s'y passait avant un an et demi. Par contre, l'essentiel de mes dossiers, 60% des dossiers, c'est la dispute entre le père et la mère. Voilà. Et on dit, il y a un conflit parental prégnant. Et il place les enfants, d'accord? Il place les enfants. C'est l'essentiel des dossiers, ça. Hein. Après, il va y avoir énormément d'enfants autistes. Les autistes, ça va être assez compliqué. Et après, les parents qui sont malades. Et par exemple, ce qui est énorme, par exemple, je défends une maman à Valence qui a fait une dépression. Et pendant la dépression, elle a eu des épisodes où elle souffrait un peu plus que de raison. Et ça, c'est vu à l'école. Donc ils ont fait un signalement en disant la mère est en dépression. Mais être en dépression, c'est être en maladie. Ce n'est pas être mettre en danger un enfant. C'est-à-dire que une assistante sociale qui n'a aucun diplôme en psychologie, aucun diplôme en psychiatrie, qui n'a rien, qui n'a aucune compétence particulière, décide qu'une maman est dangereuse pour son enfant parce qu'elle est en dépression, et c'est fini. On lui prend son enfant et avant qu'on lui rende, dans la mesure où il y a une assistante sociale qui a dit votre l'enfant est en dépression, le parcours de cette femme va être extrêmement compliqué parce qu'elle a été malade. C'est-à-dire que tous les gens qui perdent leurs parents, quand à la quarantaine, la cinquantaine, on perd nos parents, souvent on a un épisode dépressif. On y a droit. Ce n'est pas pour autant que nous sommes dangereux. Et là, quand vous dites, excusez-moi, je reviens sur un élément que j'ai totalement oublié. Il y a 20% des dossiers chez moi, dans mon cabinet, qui sont les dossiers des femmes seules et battues.
Oui, vous en aviez parlé, je me souviens.
Et là, on est dans le incroyable. C'est-à-dire qu'une femme est sous la violence d'un bonhomme. Elle met longtemps, souvent, à s'en aller. C'est-à-dire le choix de s'en aller pour une femme battue est extrêmement long. Parce que elle ne s'en va qu'au moment, à l'épisode paroxystique. Elle s'en va avec ses enfants, et à ce moment-là, on lui place ses gamins. C'est-à-dire qu'elle a triple sanction. D'abord, elle s'est fait goinfrer de coucou par un type pendant des années. Elle doit quitter sa maison, souvent avec un sac, rien. Et en plus de ça, de l'humiliation d'avoir été battue, de quitter son domicile, on lui pique les enfants. Et avant qu'on les lui rende, on lui pique en disant « Vous n'avez pas protégé les enfants des scènes de violence qu'il y a eu chez vous. » Mais souvent, elle ne pouvait pas se protéger elle-même. Et très régulièrement aux audiences, alors ces femmes-là sont brisées, hein. Elles sont brisées à tous les niveaux possibles. Elles ont été ramenées par un sale mec à l'état de pauvre fille. C'est ce qu'elles se ressentent. Elles se ressentent de femmes laides, elles se ressentent des femmes brisées, d'accord. Et on leur pique leurs enfants. Et là, pour récupérer les enfants, c'est tout un chemin, parce que c'est un chemin, et il va falloir séduire des assistantes sociales,
ouais, on va en parler,
qui n'ont aucune qualification. Ah, love is all, love is new. Love is all, love is you.
Et donc, toujours avec Maître Ramaz sur RLP 102.3, vous nous racontiez un peu le nombre d'enfants qui étaient placés dans notre pays, la complexité des dossiers que vous avez, leur injustice. Est-ce que vous pourriez nous faire un état des lieux rapide, nous dire surtout pourquoi ça marche mal, pourquoi ça va pas, et comment pourrait-on améliorer tout cela?
Pourquoi ça marche mal? J'en ai pas une grande lecture. Ce qui pour moi marche mal, c'est l'abandon total par le juge de ses compétences. Le juge ne décide plus.
Il délègue, en fait, c'est ça. Il s'est totalement délégué.
C'est-à-dire qu'il s'en rapporte totalement aux services sociaux, totalement.
On le constate dans le familial aussi, hein, dans un divorce.
Et il homologue systématiquement. Non, dans les divorces, il y a des juges qui ont un recul. C'est-à-dire, il y a des juges qui ont du recul et...
Moi, j'en ai vu aucun contredire un expert, hein.
Ah, mais écoutez, moi, fait 30 ans que j'ai vu j'ai vu énormément de juges contredire les experts.
D'accord, très bien.
Je fais ce métier depuis 30 ans, effectivement. Les magistrats, les du JAF, ont du recul. Et surtout, ils ont une autre chose, c'est qu'ils décident qui décide. Mmh. Alors que les magistrats pour enfants se fient à la lettre au rapport. Et il y a un élément qui est crucial et que je n'avais pas trouvé au début de ma vie dans cette matière, c'est le caractère non contradictoire. Il n'y a qu'un document dans les dossiers du juge pour enfants, il n'y en a pas deux, c'est le rapport. Les services sociaux, c'est le rapport. Ce document est fourni par les services sociaux, c'est le point sur l'année, avec les documents au cas où du psychiatre, du psychologue, les avis de tout le monde, les avis des personnes qui s'occupent des enfants, d'accord, c'est un gros document, c'est le document de travail. Ce document, celui sur lequel je vais plaider, la plupart du temps, je l'ai la veille, le matin, et oui, parfois je l'ai à l'audience.
Quand vous l'avez.
Alors, vous savez ou quoi? C'est pas que, comment on peut, dans la minute, trouver un argumentaire et argumenter.
Ah, mais je suis d'accord.
Puisqu'on n'a pas. C'est le contraire du pénal. Au pénal, c'est pour ça qu'on demande à modifier la loi. Au pénal, il y a une totale transparence. Le parquet, le procureur de la République, et nous, on a le même dossier sur lequel on a travaillé. Et on l'a bien avant l'audience. Sauf en matière de comparution immédiate pour le type qui vole un sac et on le défère tout de suite. Mais on a le même rapport immédiatement.
Ce qu'on appelle le contradictoire.
Oui, qui est fait par quelqu'un dont on ne peut pas suspecter la mauvaise foi, en général soit les services de police, soit les services de gendarmerie, soit un juge d'instruction. Un type totalement impartial, d'accord? On a un document totalement impartial, fait par des gens impartials, et le parquet, lui, fait que solliciter une peine. Il dit, voilà, moi, pour l'État, je pense qu'il faut cette peine. Là, en matière de droit des enfants, où l'intérêt est souvent 10 fois plus important que le petit voleur de shit ou voleur de scooter, dans cette matière-là, on a le seul document qui est fait par les services sociaux, et la réquisition, c'est-à-dire la peine qui est demandée, elle est demandée également par les services sociaux, qui sont juges et parties. C'est-à-dire que ce document que l'on ne peut pas contredire dans l'instant, sauf à être magicien. Imaginez, on dit, madame est ivrogne, vous êtes l'avocat de la femme, ça prend une demi-heure de faire un test gamma GT, on l'a dans la journée ou le lendemain. Immédiatement, on peut contrer cet argument. Ou madame est violente avec les enfants, on fait faire des attestations par les parents, les copains, la maîtresse d'école, et immédiatement, on peut contrer cet argument. Eh bien, le rapport, on l'a en général la veille.
Donc c'est déjà deux grosses raisons. La première qui est le fait que le juge se délègue de sa prise de décision sur
totalement.
Les services sociaux.
Totalement.
Et la deuxième raison, le non-respect du contradictoire qui font que les services sociaux, en fait, sont très obscurs, communiquent peu et respectent très peu les procédures.
Tout à fait. Alors, un truc est scandaleux, je vous le dis aussi. Maintenant, faut le dire quand même, les gens me connaissent dans les tribunaux où je parcours la France avec mes dossiers. J'ai un dossier à Marseille pour un couple où la femme est violente avec l'enfant, elle a des épisodes de schizophrénie, et on va placer l'enfant, alors que le père est chauffeur VTC, c'est un type super bien, mais d'abord il place l'enfant en disant, bon, il y a une situation urgente, on va placer l'enfant 6 mois. Le père est un type qui participe avec l'enfant en résidence alternée, ce qui est un type bien. Bon. On a un rapport le 15 qui dit, effectivement, le père est très bien, il faut surtout pas le donner à la mère qui est instable. Et on va d'abord le faire un truc proportionnel, le réintroduire dans l'année qui vient des hébergements. La nana des services sociaux va déposer son rapport le 15. C'est important de lire le mot. Le 15. Et voit que c'est mon cabinet qui intervient. Et le 20, c'est-à-dire 5 jours plus tard, il y a un second rapport qui vient et qui dit « Je propose la main levée et le placement chez le père. » Qu'est-ce qui s'est passé le 15, entre le 15 et le 5? C'est la même personne qui signe les deux documents. Et il n'y a pas eu d'événement entre le 15 et le 5, si ce n'est la venue des services sociaux et la prise de connaissance qu'il y a l'emmerdeur qui est dans le dossier. Ça aussi, c'est intolérable. C'est intolérable. C'est-à-dire que
ouais, ça veut dire que si on se laisse faire, en fait, ils n'ont aucune limite. Il faut absolument ce qu'ils veulent.
La plupart des gens ne se rendent pas compte que ce système va à volo. C'est n'importe quoi. Il est totalement à la dérive.
Et brasse énormément d'argent.
Et brasse beaucoup de pognon. Je vous donne un autre exemple qui est inacceptable. On a un petit couple au Puy-en-Velay. Ils sont repérés par les services sociaux parce qu'ils sont fragiles économiquement. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup de sous. Entre midi et deux, c'est l'été. Ils ferment les volets pour pas qu'il se fasse trop chaud. Et l'enfant, pendant sa sieste, se lève pour aller aux toilettes. Donc, il va sur le pot. Il enlève sa culotte. Il va sur le pot. À ce moment-là, visite des services sociaux. Ils ouvrent la porte. Quand les gens rentrent, le petit se lève du pot cul nu. Ils font un rapport en disant, l'enfant est cul nu dans la maison et c'est morbide parce qu'il ferme tous les volets. Ils vivent dans la pénombre. En vrai, c'est dans la réalité, moi, comme parfois, réellement, vous avez les dents qui grincent et les poings qui se ferment.
À cause de ça, on va leur prendre leur enfant, ils ne le verront plus. Et on va mettre cet enfant dans des lieux dont la télévision nous montre parfois qu'ils sont, personne ne souhaite mettre ses enfants à l'assistance publique. C'est un désastre, on n'a absolument pas envie qu'ils y aillent.
C'est un désastre. Par exemple, je vous donne un exemple à Orléans. À Orléans, il y a un juge, un genre de cow-boy qui dit, si je place l'enfant, il va dormir sur un matelas, puisqu'il n'y a pas de moyens. Il va dormir sur un matelas et on ne pourra pas s'en sortir. Et il a fait un truc qui est incompréhensible, c'est-à-dire que tous les feux sont au vert. La maman s'entend bien avec les enfants, il y a deux enfants placés, tout se passe bien, les services sont d'accord sur tout. Mais comme elle veut, la cliente a été au début de l'ouverture de dossier un peu désagréable à crier, elle a claqué la porte comme vous le feriez si on prenait vos enfants. Elle a renouvelé là pour 2 ans, en plaçant l'enfant dans un foyer, sachant pertinemment que l'enfant il allait dormir sur un matelas dans une pièce jetée au sol. C'est inacceptable.
Bon, et nous verrons après la pause ce que vous proposez pour tenter d'améliorer tout ça. Donc toujours avec Maître Hamas qui nous racontait le monde du juge des enfants et des placements qui concerne beaucoup de parents qui ne s'entendent pas, hein, d'après ce qu'il disait, ou des personnes en situation de vulnérabilité, et dont il nous expliquait que le nombre extrêmement important d'enfants placés en France était en corrélation avec peut-être l'absence de décision du juge qui se repose sur les services sociaux, lesquels services sociaux ne respectent pas le contradictoire et ont une opacité qui font qu'il est possible, même pour les parents, hein, pour les usagers, d'avoir les informations. Et tout ceci l'a amené, je crois, avec son cabinet et son associé, à être à l'initiation d'une PPL. Est-ce que vous pourriez nous en parler, s'il vous plaît?
Alors la PPL, elle a été en deux parties. On a fait une PPL l'an dernier, parce que je suis parti en guerre l'an dernier contre les magistrats qui me répondaient pas. Un exemple, juge pour enfants d'Evry, je suis à 29 courriers sans réponse.
Beaucoup.
Donc je pensais qu'il était mort à un moment ou empêché. Vous voyez que c'est un cabinet fermé. 29 courriers d'avocats sans réponse. C'est de la fumisterie, hein. Le mot, c'est de la fumisterie. Donc, j'ai demandé à ce qu'on applique la même règle qu'à l'instruction. Vous savez, quand il y a un meurtre, un assassinat, ou quoi que ce soit, un délit pénal, il y a des juges d'instruction et ça fonctionne plutôt bien. L'avocat fait une demande, le juge répond dans le mois. Si on n'est pas d'accord avec la réponse, c'est renvoyé à la cour d'appel, elle doit juger dans les deux mois. Donc je suis pas plus intelligent que les autres. J'ai demandé à ce qu'on applique cette loi. C'est-à-dire qu'on prenne les mêmes principes, demande, réponse dans le mois. Si on n'est pas d'accord, appel, réponse dans les deux mois, ce qui donne un rythme au dossier. C'est ce que j'avais demandé parce que je pensais que c'était essentiel. C'est essentiel, mais on est en train de travailler sur la modification de cette PPL, qui est déjà à l'Assemblée nationale. On travaille sur l'ajout de divers mesures. Un, que le rapport soit envoyé à tout le monde au moins un mois avant. C'est simple qu'on ait un document de travail sur lequel on puisse travailler. Je vous donne un exemple, c'est à Marseille, devant le magistrat principal de la juridiction. Quand on est arrivé, il y a les services sociaux qui m'ont donné 72 pages. Voilà, c'est comme si je vous donnais un roman.
Monsieur.
Et que vous aviez 2 minutes. Mmh. C'est de la fumisterie. Donc, ça, il faut plus que ça se produise. Donc, on demande à ce que le rapport soit envoyé à tout le monde un mois avant, ce qui permet à tout le monde de travailler.
Alors, je vais faire une petite parenthèse. Oui. Là, je vais expliquer que, parce que je gère les permanences à Périgueux, je commence à en passer un certain nombre, hein, lorsque les services sociaux interviennent pour dans une famille, on demande à avoir les documents. Les documents, ils nous les donnent pas. Quand le parent a de la chance, on va lui lire des extraits au téléphone. Mais si vous adressez au conseil départemental pour avoir les documents des services sociaux qui concernent votre famille, on vous les donne pas. Vous passez par la CADA, commission d'accès aux documents administratifs, et vous voyez arriver des documents qui sont flottés au blanco, en fait. Donc vous n'avez pas l'intégralité de ce qui vous concerne.
Si vous prenez un avocat, il a accès à la procédure tout le temps.
Mais c'est pas forcément une procédure. Là, on parle dans un cas, dans une situation normale, par exemple. Hein.
Non, mais alors... il faut qu'on ait accès à ces documents.
On n'a pas ces documents. Ces gens viennent nous voir, ils se parlent entre eux, ils sont parfois peu formés, ce sont souvent des bénévoles, des associations qui ont des délégations de services d'État, et ils écrivent des documents qui se communiquent entre eux, qu'il est absolument impossible d'avoir pour le citoyen normal, avant l'avocat d'ailleurs. Hein. Et je pense qu'il y a un problème de ce côté-là.
Alors, ben, c'est pas un problème, c'est que c'est totalement déloyal, on n'a pas accès aux documents qui nous concernent.
Voilà, c'est exact. Avec des gens qui peuvent prendre des décisions très importantes.
Et qui prennent des décisions, par exemple, ils peuvent prendre comme décision de, là, par exemple, en ce moment, à Nîmes, ils ont pris la décision, alors que le magistrat a ordonné un droit de visite et d'hébergement, de le supprimer. Pour une raison qui est obscure, qui ne nous est pas exprimée ni par écrit ni par oral. Du coup,
Donc en plus ils agissent sans juge, sans procureur, sans juge.
Ils sont totalement
frits.
On ne sait pas ce qu'ils écrivent. Ouais. Ça, ce n'est plus acceptable. Voilà, c'est tout simple. Ça, ce n'est plus acceptable.
Voilà, c'était le JAF ta mère de cette semaine. Si vous nous écoutez sur YouTube, n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus, des likes, etc., de faire passer autour de vous. Prochaine rediffusion, mercredi 16h, et donc vendredi prochain, nous aurons la seconde partie de cette interview. Ne la manquez surtout pas. Voilà, passez une bonne semaine, portez-vous bien, et à bientôt. Ciao, ciao.
JAF ta mère.